Bonjour Stéphane Baudens.
Bonjour Victor.
Vous êtes maître de conférence en droit, vous enseignez l'histoire du droit et des institutions, mais également le droit constitutionnel à Saint-Cyr-Couët-Quidan, à l'Université d'Angers, mais également au sein de l'IPAC, donc l'Institut de préparation à l'administration générale de l'Université de Rennes 1. L'élection présidentielle a lieu dans un mois environ, premier tour le 10 avril et second tour le 24, alors que de l'autre côté de l'Europe a lieu une guerre en Ukraine. C'est un conflit auquel Emmanuel Macron et plusieurs gouvernements tentent de mettre fin. Emmanuel Macron qui a récemment déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. On peut alors s'interroger sur la conduite d'une campagne sereine et d'un possible changement d'exécutif dans de telles conditions. Est-ce que la Constitution prévoit dans ses dispositions la capacité de reporter une élection pour une telle situation?
Alors, pour répondre à votre question, moi je distinguerais la campagne de l'élection. Pour reporter éventuellement les deux tours de l'élection présidentielle, je pense qu'il serait envisageable de le faire s'il y avait une crise nationale, au niveau national. Ça serait à mon avis envisageable. Pour l'instant, malgré la gravité de la crise russo-ukrainienne et le conflit qui implique le président Macron comme président également de l'Union, malgré cela et toutes les troubles que ça suscite, on n'est pas dans l'hypothèse d'une grave crise nationale. En revanche, pour la campagne, on le constate, le sujet sature, vampirise, sans doute légitimement, la campagne, et on le voit, le président a attendu quasi dernier moment pour déclarer sa candidature, et on avait l'impression que les autres candidats étaient neutralisés ou dans l'expectative, et retenaient leur coup, ou en tout cas hésitaient à se prononcer. Donc on est dans une période où la campagne paraît en pause, sinon dans l'attente de la déclaration, elle vient d'arriver, du président Macron, et sinon un peu d'une relance. On a l'impression que effectivement tout est en suspens. En revanche, je reviens pour l'élection, à mon avis, on n'est pas dans l'hypothèse qui est permise par la Constitution, en cas de grave crise nationale, de report du scrutin en deux tours. Je ne pense pas qu'on soit dans cette hypothèse-là, pour l'instant.
Et est-ce qu'on peut penser, par exemple, au déclenchement de l'article 16, donc, qui est un peu une sorte de, on va dire, les pleins pouvoirs, entre guillemets, pour résumer. Est-ce que le président Macron, alors on fait un peu de politique fiction peut-être, mais est-ce que le président Emmanuel Macron aurait pu se positionner dans ce cas-là, peut déclencher l'article 16 et permettre un régime un petit peu d'exception et donc permettre, je suppose, aussi également de reporter l'élection?
Alors là aussi, selon la lettre de l'article 16, il est nécessaire qu'il y ait une interruption. Il y a deux critères principaux. Une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et une menace grave et imminente. L'article 16 a été utilisé qu'une seule fois dans notre histoire politique et institutionnelle, en 1961, par le général de Gaulle, dans un contexte très particulier de putsch en Algérie, de tentative de putsch. Il a été utilisé de mars à septembre 1961. Mais dans un contexte très particulier de la décolonisation, d'une tentative de putsch militaire en Algérie. Et depuis lors, il n'a plus jamais été utilisé. Même en 68, par exemple, ou même en 2005, par exemple, pendant les émeutes dans les quartiers populaires. Donc, en l'état, c'est une possibilité pour le président Macron de réagir. Mais en l'état, on n'est pas dans le contexte. Et par ailleurs, le président, face à une grave crise nationale, pourrait tout à fait utiliser un registre infra, qui est l'état d'urgence. On l'a vu pendant la crise sécuritaire ou terroriste, et ensuite pendant la crise sanitaire. C'est l'état d'urgence plutôt qui a été utilisé. Au-dessus, vous avez effectivement l'article 16. Et encore au-dessus, quand vous avez l'effondrement total, c'est l'état de siège. Mais pour l'instant, le président Macron, Emmanuel Macron et ses prédécesseurs, hormis De Gaulle en 61, n'ont plus jamais réutilisé l'article 16 parce que vous utilisez l'expression même de plein pouvoir, ce sont les pouvoirs exceptionnels, mais dans l'esprit, dans notre esprit, dans l'esprit de nos concitoyens, c'est une situation très 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 exceptionnelle de concentration des pouvoirs, de fin de la séparation des pouvoirs, pour réagir vite et très fortement, et c'est pas une période normale, ça c'est certain.
La clôture des candidatures et l'apport des 500 parrainages vient d'avoir lieu. On a pu constater dans cette campagne, comme dans les précédentes, une contestation de ce système des 500 parrainages, conçu comme un garde-fou pour éviter les candidatures fantaisistes. Est-ce que d'autres techniques, d'autres solutions sont envisagées ou ont été envisagées par le droit constitutionnel ?
Alors, si vous me permettez, je ferai un très bref rappel historique. Les parrainages existent dès 1962, dès la révision de la Constitution, dès l'adoption par référendum de l'élection du président au suffrage universel direct. Dès cette époque, on a un système de parrainage. Entre 62 et 76, on a un système de 100 parrains. Pour éviter, comme vous le disiez, effectivement, les candidatures fantaisistes. On sait qu'au départ, De Gaulle, d'ailleurs, n'était pas favorable. Il voulait un système sans parrainage. Mais, quelque part, son gouvernement lui impose ce système qui commence à être appliqué à partir de la première élection au suffrage universel direct en 65. Il y a une première modification par la loi en 1976 qui fait passer le chiffre de 100 à 500. Et parmi tous les parrainages obtenus à minima 500, certains sont tirés au sort par le candidat pour être rendu public. Et la dernière modification, depuis 2016, c'est le système dans lequel on est, tous les parrainages sont rendus publics pour ceux qui ont au moins, celles et ceux qui ont au moins obtenu 500 parrains parmi les 42 000 possibles, 42 000 et quelques possibles. Toutefois, je vous rejoins, je pense que c'est un système qui montre ses limites, si à un moment donné il a pu empêcher les candidatures fantaisistes, sans doute, aujourd'hui il bloque des candidatures qui, semble-t-il, du fait d'élections passées ou de sondages d'opinion, recouvrent des courants d'opinion qui sont quand même importants dans la société et qui ne s'appuient pas peut-être, parce que nouveau, sur des élus locaux, des notables, des députés, mais d'après les enquêtes d'opinion ou des événements passés, ils montrent qu'ils recouvrent quand même une présence dans l'opinion, qu'il s'agisse par exemple de Christiane Taubira ou de Florent Philippot, qui sont deux candidats très différents. Ils ont chacune et chacun, une présence dans l'opinion. On l'a vu dans la consultation numérique, le référendum numérique pour une primaire numérique à gauche, dans la gauche socialiste et écologiste notamment. Christiane Taubira avait rencontré un certain écho. Philippot, au sujet des positionnements souverainistes ou contestataires des mesures sanitaires, rencontrait lui aussi un certain écho. Et pour la richesse du débat, il semble dommage que ces, entre guillemets, petits candidats soient bloqués. Alors que d'autres qui s'appuient sur des partis historiques, sur des partis qui sont très implantés depuis des années, des décennies, dans le paysage politique de la Ve République, aient très peu de difficultés pour obtenir leur signature. Quoiqu'en parallèle, aujourd'hui, ils représentent des forces politiques plutôt déclinantes. On songera par exemple au Parti Socialiste, qui, d'après les enquêtes d'opinion, qui sont toujours à prendre avec des pincettes, la candidature de Madame Hidalgo oscille entre 2,5-3% et 6% pour l'instant. Donc ça pose question. Ça apparaît aujourd'hui davantage comme un verrou, comme un blocage démocratique, plutôt que comme une bonne solution pour éviter des candidatures totalement hors-jeu ou qui n'auraient pas de rapport avec l'élection présidentielle.
Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer ou est-ce qu'il a été imaginé d'autres formes, une baisse, alors que ce soit par exemple une baisse, là ce qui pose problème, enfin ce qui est contesté, c'est que ces parrainages sont rendus publics, mais est-ce qu'on peut penser à une baisse du seuil de parrainage, à des parrainages citoyens ?
Pour moi, là, il y aurait deux hypothèses à explorer sur lesquelles on pourrait réfléchir. Soit revenir à la situation de 62-76, c'est-à-dire sans parrainage, et à minima, et le secret. Alors, on est dans une époque où le secret, on est dans une époque de quête de transparence, de vérité, et donc le secret apparaît comme un peu rétrograde. Mais ça permettrait peut-être d'avoir moins de difficultés pour des candidatures, encore une fois, qui sont souvent quand même assez légitimes. Et comme vous l'indiquiez, je pense qu'il y a aussi une seconde hypothèse qui serait de panacher. On le voit pour la consultation du Conseil économique, social et environnemental, de panacher avec des signatures de citoyens. Le seuil pourrait être fixé à 500 000 ou 1 million. 1 million, ça peut être difficile à atteindre, mais 500 000, je pense, ça permet quand même de montrer qu'on a une candidature qui pèse dans l'opinion, plus que dans les sondages, qui pèse davantage par des signatures, par des engagements. On le voit, les Français sont en quête de consultation, sont très intéressés par la chose publique, contrairement à ce qu'on croit, ils ne sont pas dépolitisés. Et donc qu'une candidate ou qu'un candidat réussisse à présenter sans parrainage qui serait vérifié par le Conseil constitutionnel, qui ne serait pas nécessairement rendu public, et 300, 400 000, 500 000 ou davantage signatures de citoyens, je pense que ça, aujourd'hui, à la fois, ça permettrait de rénover une procédure qui est à bout de souffle, et en plus, de donner un souffle démocratique dans cette procédure. Le premier tour est là, existe, il mettra les citoyens face à leurs responsabilités, mais qu'auparavant, certains souhaitent appuyer dans une procédure une candidature, ça paraît tout à fait raisonnable, et ça permettrait d'arriver à débloquer sur ce point une situation qui apparaît anachronique et bloquée.
On parlait du Conseil constitutionnel qui accueille ces jours-ci trois nouveaux membres, dont Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, au profil plus politique que juridique. Cette nomination a été contestée. Est-ce qu'un tel profil est incompatible avec le Conseil constitutionnel ?
Alors, vous l'avez rappelé, il y a effectivement deux catégories de membres. Les membres de droit, les anciens présidents de la République. Aujourd'hui, il n'y en a plus à ce titre. Les seuls qui siégeaient ces dernières années étaient Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, qui sont décédés. Ceux qui pourraient y prétendre, Nicolas Sarkozy s'est mis en retrait. Et François Hollande a indiqué qu'il ne le souhaitait pas. Viennent ensuite les membres nommés. Au nombre de 9, nommés pour un mandat de 9 ans, par renouvellement par tiers tous les 3 ans, nommés l'un tous les 3 ans par le président de la République, le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Ces dernières semaines, effectivement, les nominations ont suscité des remarques, des critiques, dans un contexte de campagne présidentielle par ailleurs. Ce que l'on voit depuis plusieurs décennies, c'est un mouvement qui peut paraître contradictoire. Le Conseil constitutionnel devient de plus en plus une juridiction. Et en parallèle, sa composition mêle à la fois des parcours politiques et des parcours juridiques. C'est-à-dire que dans les membres nommés, on a une petite majorité d'anciens politiques. On a actuellement par exemple Alain Juppé, qui est ancien Premier ministre, ancien député. Et on a aussi des parcours juridiques avec des anciens conseillers d'État, par exemple, comme d'ailleurs l'un qui vient d'être nommé, François Senners. On a depuis déjà de nombreuses années ce côté hybride, mixte, des gens très expérimentés avec un parcours politique, parfois de haut niveau jusqu'à Premier ministre. Avant Alain Juppé, il y avait aussi Lionel Jospin. Et des parcours à la Cour de cassation, au Conseil d'État, des parcours ou dans des juridictions d'importance qui sont plutôt, on va dire, des parcours juridiques, même si parfois certains étaient membres de cabinets ministériels. On a quand même affaire à des parcours juridiques. Mais déjà depuis longtemps, on a cette situation. Alors que le Conseil constitutionnel gagne en maturité et se rapproche toujours plus de ses homologues européens, allemands, espagnols, ou même la Cour suprême des États-Unis, se rapproche toujours plus d'une, d'une authentique juridiction, on a cette composition par des autorités politiques qui parfois font appel, comme Madame Gouraud, comme Jacqueline Gouraud, à des personnes qui n'ont pas un parcours juridique lié à la justice constitutionnelle, mais plutôt un parcours strictement politique. Et à chaque fois, c'est le cas aussi ces dernières semaines, mais à chaque fois, ça suscite des interrogations. Dans le monde du droit, dans la presse, ça suscite des interrogations parce que, quels que soient les points de vue sur le sujet, on souhaite que soit associée l'expérience politique et la connaissance du droit, mais parfois, ce type de nomination pour des parcours politiques suscite, on va dire, des réserves ou des interrogations. Et a fortiori dans un contexte de campagne.
Et a fortiori quand c'est une ministre en exercice aussi.
Oui, oui. Mais elle-même avait remplacé au même poste, à la cohésion des territoires, donc son prédécesseur, qui s'appelait Jacques Mézard. Lui-même était aussi en exercice au même poste au ministère de la cohésion des territoires, donc c'est semble-t-il une voie à explorer qui forme bien pour accéder au Conseil constitutionnel. Là effectivement, quand en plus on n'est pas un ancien politique mais quand on est en exercice, ça rattache d'autant plus à une origine gouvernementale, à Emmanuel Macron et à Jean Castex, donc ça entretient les doutes et critiques sur le mélange des genres politiques et juridictionnel. Et c'est pas bon, je dirais, au moins la première victime, c'est le Conseil constitutionnel. C'est pas bon pour la crédibilité de ses décisions, pour la légitimité, même si en rentrant au Conseil constitutionnel, les nouveaux membres prêtent serment sur l'honneur de se départir de considérations politiques, sont astreints à un devoir de réserve. Ceux qui aiment critiquer le Conseil constitutionnel trouvent là du grain à moudre.
Vous enseignez évidemment l'histoire du droit, des institutions, le droit constitutionnel. Est-ce que on change sa méthode d'enseignement en période d'élection présidentielle?
C'est une question personnelle, c'est une question intéressante. Je dirais qu'on est dans un contexte quasi rêvé. Parce que pendant cette période, les étudiants, les élèves sont encore plus sensibilisés aux questions politiques qui sont l'air, l'oxygène des institutions, du regard sur les institutions. Et donc, ils ont beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de questions. Ils sont aussi plus attentifs dans ce qui est répercuté dans les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux à ces sujets. Et du coup, ils nous considèrent un peu comme un vérificateur de ce qu'ils peuvent entendre dans les médias ou de conversations qu'ils peuvent avoir entre eux. Et donc, ils nous prennent un peu comme un arbitre ou comme encore davantage qu'un enseignant pour avoir des précisions, avec parfois des questions techniques comme la conversation qu'on a eue sur les parrainages, où là ils veulent avoir des points très précis, ou sur les articles de la Constitution. Et d'autres fois on est davantage sur l'histoire des idées, sur les courants dans la société, sur la candidature ou la non-candidature. Mais moi, je dirais que c'est une période, pour les enseignants, d'histoire des institutions, droit constitutionnel, c'est une période qui est très, très stimulante, qui nous intéresse, et qui, en plus, et c'est tant mieux, intéresse les étudiants qui sont avant tout aussi des citoyens, des citoyennes et des citoyens, qui, malgré leur jeune âge, dit-on, se passionnent pour la chose publique, pour la Respublica, sont très impliqués dans l'associatif, pour beaucoup d'entre eux, s'intéressent à ce qui les entoure et les environne, contrairement à l'idée reçue qu'on peut avoir. Et donc, en cours, en marge des cours, ils posent beaucoup de questions. Et donc, c'est une période que j'apprécie et que les étudiants ont l'air d'apprécier aussi.
Il y a aussi, donc, dans cette campagne et puis dans les campagnes précédentes, plusieurs candidats qui appellent à une réforme de la Constitution, voire un passage à une 6e République. On peut entendre une 5e République à bout de souffle. Comment se positionne la recherche universitaire sur cette 5e République? Est-ce qu'on est plus dans des positions de réforme ou alors justement de passage à une autre République?
À l'image de ce qui existe en politique, la recherche, la doctrine en droit constitutionnel est traversée par différents courants. Vous avez effectivement ceux qui préconisent des ajustements, de partir de l'existant pour développer d'autres points, le référendum d'initiative partagée, le renouvellement du rôle du Conseil économique, social et environnemental, d'ajuster certaines dispositions par la loi, sans changer forcément la Constitution, en modifiant certains points du code électoral. Et puis vous avez d'autres courants qui sont davantage dans l'innovation, partisans de la VIe République, avec plusieurs courants dans la VIe République. Vous avez des partisans d'une VIe République plus démocratique, avec participation des citoyens, ou des partisans d'une VIe République qui serait plus parlementaire. Donc je dirais que vous avez presque 3 à 4 grands courants, ceux qui veulent garder la Ve République en l'adaptant ou continuer de l'adapter, ceux qui veulent ou voudraient ou désireraient une Ve République plus parlementaire, avec un rôle du Parlement et notamment de l'Assemblée qui serait rénové, augmenté dans son rapport avec l'exécutif, avec plus de place pour le Parlement, et d'autres qui préconisent des systèmes de référendum, de votation, qui relèvent davantage de la démocratie semi-directe ou directe, en consultant davantage, et pendant le mandat, les citoyens. On est dans une période de bouillonnement. C'est un peu moins présent dans cette campagne. Ça l'avait été davantage dans les campagnes de 2012 et 2017. Là, tout est un peu écrasé. On en parlait par le Covid, puis par la guerre russo-ukrainienne. Mais on le voit dans les déclarations publiques que ces aspects-là n'ont pas totalement disparu et que certains candidats proposent de reconnaître le vote blanc, par exemple, proposent de faire évoluer la question des parrainages, proposent de faire davantage participer les citoyens, y compris en cours de mandat. Et ça rencontre un certain écho et espérons-le, ça pourrait faire baisser un peu l'abstention. En se disant que les politiques entendent un peu les critiques, soit qu'elles se manifestent dans l'abstention, dans des courants politiques critiques, ou dans une grande participation dans l'associatif, ou même dans le vote blanc. Donc, surtout dans les jeunes générations, on voit qu'il y a une attente d'évolution. Et est-ce que ça sera l'adaptation ou l'innovation ? On verra ça, mais effectivement, la Ve République est une vieille dame, si on peut dire. Et on voit bien qu'il y a des souhaits de transformation, d'innovation ou d'adaptation. Et il serait bon pour la vie démocratique, pour faire baisser l'abstention notamment, que ça soit pris en compte. Sans que ça soit une solution miracle, hein. La réforme institutionnelle suffit pas à tout. Un mécano constitutionnel peut inciter, mais il faut que ça vienne aussi des citoyens. Donc il y a un volet.